Jean, chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, prendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père.
Merci beaucoup, Gabriel, pour cette belle lecture. C'est le début de l'évangile de Jean et il veut nous impressionner, Jean, par la personne qui va nous présenter pendant tout son livre. Juste avant d'évoquer
cela, je voudrais penser aussi à toutes les personnes qui pourraient, à l'approche de Noël, sentir comme une détresse parce qu'ils sont très loin de leur famille, ils sont ici en France, la famille est à l'étranger, peut-être que vous êtes seul. Vous connaissez des moments de détresse. C'est pas un moment toujours facile, c'est cette période de Noël. Et on aimerait que vous puissiez vous sentir la bienvenue. Et si c'est votre cas, vous êtes invité le 25, le jour de Noël, à midi chez Myriam. C'est Myriam qui veut peut-être carrément te lever, comme ça on te repère. Alors, si vous êtes seul, si vous souhaitez passer Noël avec dans une famille, il y a déjà plusieurs qui sont prévus, mais si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas à le faire. Et merci beaucoup à Myriam pour l'accueil et puis qu'elle offre à toutes ces personnes. Et donc, dans son introduction, Jean, il est un peu énigmatique, vous avez remarqué, quand il commence, il ne parle pas de Jésus tout de suite, mais il dit « il était au commencement ». C'est comme s'il montre qu'il est avant toute chose, celui dont il va nous parler. Aussi, il le présente comme la parole éternelle, la parole créatrice, celui qui dit et la chose existe. La parole qui est Dieu, une parole par laquelle tout a été créé. Puis au verset 9 et 10, il nous parle de lui comme de la lumière qui éclaire tout le monde, qui éclaire tout homme, la lumière sans laquelle personne ne peut vivre. Une lumière indispensable pour nos vies. Et puis au verset 14, le voile est levé sur l'identité de cette parole, de cette lumière dont nous avons besoin. Elle a pris forme humaine, elle a habité au milieu de nous. Nous avons pu contempler sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, Dieu le Fils, comme il est appelé au verset 18. Et pourtant, versets 11 et 12, il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est extraordinaire, je trouve, cette histoire. Jésus est présenté comme le propriétaire de toutes choses, le créateur du monde et de tout ce qui s'y trouve. De nous tous. Mais étonnamment, ceux qui l'a créé ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. on pourrait dire, pour leur défense, qu'ils ne l'ont pas reconnu parce que il est venu sous une apparence qui était surprenante. Oui, c'est vrai, pour cause, Dieu est venu non pas d'une manière à frapper nos regards, non pas comme un despote, comme un puissant, mais il est venu sous une apparence humble. Il s'est fait homme. Il est né dans une famille ouvrière. Le roi du monde est né dans une étable. Il a grandi dans une petite ville d'une région méprisée d'Israël. Lui, le créateur de toutes choses, il a appris un métier, le métier de charpentier. Néanmoins, il a choisi de se révéler au monde tel qu'il est véritablement. Il a accompli tout ce que les Écritures annonçaient de lui concernant le Messie, sa généalogie, sa descendance du roi David, sa naissance à Bethléem, sa vie parfaite, ses œuvres miraculeuses, sa mort, sa résurrection. Il avait tout été annoncé et il a tout accompli à la lettre. Il a agi comme propriétaire, comme créateur, comme celui qui domine sur toutes choses, les visibles, les invisibles. Sur les invisibles, il chassait des démons d'une seule parole. Sur les visibles, il guérissait les lépreux, ouvrait les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Sur la mort même, il a montré sa puissance en relevant plusieurs d'entre les morts. Il a montré qu'il dominait les éléments, marchant sur l'eau, parlant au vent et à la mer, et d'une seule parole les calma. Il a montré qu'il était le créateur en créant du pain et des poissons sans rien, à partir de rien. Et il a nourri des milliers de personnes, simplement. De sorte qu'il n'y a aucune ambiguïté possible sur sa véritable identité. Il est Dieu, celui qu'annonçaient les prophètes. Et je trouve que, à la fois, cet aspect tellement humble et aussi tellement puissant nous dit beaucoup sur les intentions et sur la nature de notre propriétaire. Il est venu non pour juger. Il est venu pour nous sauver. Il est venu non pour être servi, mais il est venu pour servir. Ainsi, il y a chez Jésus quelque chose de tellement attirant, quelque chose qui devrait susciter tellement notre passion, notre curiosité. Si on est objectif, Jésus est au grand minimum intrigant. Marquer autant le monde en aussi peu de temps, sans prouesse scientifique et sans verser du sang autre que le sien, ça c'est incroyable. Et pourtant, il n'a pas été reçu. On n'a pas cru en lui. Même Israël, le peuple choisi par Dieu pour préparer le reste du monde à la venue du Messie, l'a majoritairement rejeté. Aujourd'hui encore, si on faisait un micro-trottoir avec la question « Que pensez-vous de Jésus ?» ou « Est-ce que vous aimeriez faire une colocation avec Jésus ?» Est-ce que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que vous seriez un de ses disciples ou l'un de ses détracteurs ? Serait-il dans la liste de vos amis ? Je crains qu'il serait rejeté par beaucoup, peut-être accepté aussi par beaucoup d'enfants. Mais alors pourquoi les gens de son époque et de la nôtre ne l'ont majoritairement pas reçu ? Oh, est-ce qu'ils sont trop occupés ? Trop heureux peut-être ? Trop heureux ? Voyez-vous, Jésus est venu parce que nous avions besoin de lui. Il y a un problème qui nous ronge depuis longtemps et qu'il est venu régler. Un problème qui finalement gâche toutes nos joies à terme. Même si nous ne sommes pas aussi mauvais que nous pourrions l'être, nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions être. Il y a comme une maladie dans notre âme qui nous a atteints. Une corruption qui a infecté nos pensées, nos cœurs. Nous sommes envieux, nous sommes jaloux, nous sommes rancuniers, en colère. Nos paroles sont affectées par cela. Nous sommes souvent médisants, menteurs, vantards. Nos actions sont affectées par cela. Elles révèlent notre égoïsme, notre méchanceté. Mais alors que faire? Beaucoup obtiennent, on choisit la méthode de l'autruche. On se cache la face. De toute façon, on ne peut rien y changer. Tout le monde est comme ça, alors mangeons, buvons, réjouissons-nous parce que demain on va mourir. D'autres qui sont conscients de leur nature s'efforcent de faire du bien autour d'eux. Un don au Téléthon, du bénévolat dans une association caritative, un service rendu à une voisine. Tout ça, c'est des très bonnes choses. Mais au fond, la paix n'est jamais vraiment là parce qu'au fond, on sait bien que le bien que l'on fait ne peut pas compenser le mal. C'est-à-dire, quand on a fait le bien, on ne peut pas juste se vanter de cela, parce que si on ne l'avait pas fait, ça aurait été mal. Comprenez ? Il n'y a pas de mérite à avoir agi comme on devait agir, comme on devrait agir. D'autres choisissent d'être religieux. Ils vont à l'église, à la mosquée, au temple ou à la synagogue. Ils récitent des prières. Ils brûlent des cierges, de l'encens, font des pèlerinages, des jeûnes, l'aumône, s'efforçant de pratiquer ce en quoi ils pensent que Dieu va prendre plaisir. Vous voyez, c'est comme si on se dit, Dieu, il doit aimer ce genre de trucs, je vais les faire pour lui. Ce faisant, ils n'ont pas vraiment besoin de Jésus. Ils ne l'ont pas reçu. Et c'était le cas des religieux de son époque. Ils étaient religieux. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ils étaient occupés par les choses de leur religion. Mais leur religion leur suffisait. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Recevoir Jésus comme sauveur, ça aura été regarder toute leur religion et tous leurs mérites, tous leurs efforts comme vains, comme inutiles, incapables de les sauver. Et ça, c'était insupportable. Toutes ces réactions sont des manières par lesquelles on rejette Jésus. On dit, on ne veut pas de toi, en fait. On n'a pas besoin de toi. Mais au verset 12, il est dit que d'autres l'ont reçu. Ceux-là ont reconnu que leur vie dépend entièrement de la faveur du Créateur. Ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas justes par eux-mêmes, qu'ils étaient coupables devant Dieu. Mais ils ont cru aussi qu'ils étaient tellement aimés par lui, tellement aimés que Jésus a donné sa vie pour eux. Ils ont reçu Christ parce qu'ils avaient besoin de lui, pour le pardon de leurs fautes, pour leur transformation de cœur, pour l'éternité. Aujourd'hui, ils lui sont attachés à cause de tout ce que Jésus a accompli pour eux. Ils reçoivent Jésus non pas comme un juge, non pas comme un patron. On n'a pas le choix, il faut l'accueillir. Non, mais ils le reçoivent avec joie, comme leur sauveur, leur frère. Et ils ont du plaisir avec lui. À Noël, nous célébrons le jour où Jésus est venu nous visiter. S'il vient humblement, il n'est pas moins le créateur de toutes choses, le propriétaire de nos vies, le Tout-Puissant. Et comme il est entré dans le monde, Jésus doit aussi entrer dans nos vies pour y régner. Avez-vous déjà dit à Jésus, « Bienvenue chez toi, bienvenue dans ma vie, dans mon cœur. » Pourquoi ne pas lui dire, « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de la vie véritable, de la vie éternelle. Je crois, moi aussi, que tu es venu pour moi, pour me sauver. » Le verset 12 dit, « Qu'en le recevant, en croyant en lui, il fait de nous ses enfants. » Alors, quand on est enfant, chez le Père, c'est aussi chez nous. Et Jésus a dit à ses disciples, la nuit où il allait être arrêté et crucifié, il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si vous croyez en Christ, si vous lui dites, Seigneur, bienvenue chez toi, dans mon cœur, sois le maître de ma vie, alors vous l'entendrez aussi vous dire dans la gloire, bienvenue chez toi. Et c'est ce que je prie, que chacun ici puisse entendre cette parole de Jésus le jour où, quittant ce monde, il paraîtra devant lui. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à tous, à toutes.